suis rentré ce matin, et la première personne sur qui je suis tombé, c'était Grace Do, qui ouvrait la porte avec un grand sourire. Pour moi, Grace, c'était ma monitrice d'école du dimanche quand j'avais 6-7 ans. Et déjà, elle souriait tout le temps. Déjà, elle servait tout le temps. Elle faisait des super beignets. Et donc, quand je reviens ici, c'est un peu mes racines que je retrouve avec joie. Donc, bon anniversaire, Grace. Félicitations. Bon anniversaire. Heureux de revoir Thomas aussi, avec qui on a beaucoup discuté quand il était plus jeune, de voir toujours engagé pour le Seigneur, avec Médère, de voir Mathieu, mon cousin, tout ça. Je suis heureux de vous voir en fait, je voulais vous le dire. Voilà, je vous aime beaucoup, vous êtes important pour ma vie. Voilà, je sais que c'est ici que sont mes racines. Je devais pas être là ce matin. Je suis venu en France seul, sans ma femme et mes deux fils, pour différentes raisons de ministère. Puis il y a un bouge ta ville à Aix-en-Provence qui commence demain, et j'aurais dû partir aujourd'hui. Mais celui qui fait mon transport a annulé, il m'a dit qu'il pourrait m'amener seulement demain, donc j'ai annoncé à Jean-Haut que je serai là ce matin. Jean-Haut m'a laissé la parole, merci beaucoup. Du coup, quoi vous dire? Ça va être un mélange de prédications, de nouvelles, et j'espère que ça ne sera pas trop brouillon. Voilà, si c'est trop brouillon, Jean-Haut me rectifiera à la fin. On va bien, donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis marié à Ellie, qui est roumaine, on travaille dans le ministère en Roumanie. Mon plus grand fils a 9 ans, il s'appelle Nathan, et puis on a beaucoup prié après pour avoir un autre enfant, et puis pendant 6 ans on a prié, il n'y a rien qui est venu. Ma femme a fait une fausse couche il y a 2 ans et demi, c'était douloureux, et puis on a un peu abandonné l'idée d'avoir un enfant, puis Dieu nous a redonné un enfant, et quand il est venu... On en a bavé, en fait. J'avais oublié que quand on ne dort pas les nuits... Ah là là, moi, c'était terrible, en fait. Donc, j'ai pas beaucoup dormi. J'avais plein de boulot dans le ministère que j'arrivais pas à faire. La fatigue faisait que tout était compliqué. C'était une période de ministère aussi. C'était plus compliqué financièrement. Ce qui arrive couramment, mais c'est juste avec le deuxième enfant, la fatigue, tout s'amplifie, en fait. Tout était plus compliqué. Et je regarde aujourd'hui, c'est bon, on a vécu les 4 premiers mois, on est encore là, tout le monde va bien, Elias va bien, je dors mieux, merci Seigneur, et puis Dieu a pris soin de nous, voilà, jour après jour, je sais pas comment Dieu fait ça, j'ai regardé notre budget début décembre, j'ai fait Seigneur, on va jamais réussir, et puis nos enfants ne manquent de rien en fait, on a eu jour après jour ce qu'il fallait, et je remercie Dieu, je remercie l'église aussi de Vendeuve qui s'est impliquée, qui nous a aidés. Et je suis reconnaissant. Voilà, on fête nos 10 ans de mariage. Ouais. Donc ça commence à faire vieux pour moi, mais on est heureux, on fête nos 10 ans de mariage. Et puis nos 15 années de ministère, donc c'est aussi précieux pour moi de me rappeler que tout a démarré ici. Et je vais vous montrer la prochaine photo. Donc certains s'en rappelleront peut-être. Voilà. À la base, je voulais être clown. C'était ça ma vision ou mon... Ce que je voulais faire de ma vie, c'était clown, c'était pas autre chose. Et un jour, je répétais ici, parce qu'il y a un haut plafond, je répétais mes clowneries. Et j'étais tout seul, il n'y avait pas de prédicateur, il n'y avait rien. Et je me suis mis à genoux, une grande conviction que Dieu m'a appelé pour le ministère. Dieu est intéressant, c'est pas moi que j'aurais choisi si j'avais été Dieu. Mais c'est comme ça, il m'a appelé. Et 15 ans après, je suis toujours là, je remercie Dieu pour ça. Et puis... Je sais qu'en France, le ministère classique, c'est plutôt d'étudier, d'avoir un travail, de faire une école biblique, de devenir pasteur. Dieu a un parcours différent avec chacun, je remercie de ce qu'il a fait pour moi. Après cet appel que j'ai eu juste là, je devais être là, voilà. Il y a eu plusieurs expériences qui m'ont marqué, il y en a une que j'ai eu à cœur de vous repartager ce matin, peut-être certains d'entre vous se rappelleront. Avec mon grand frère Sam, on avait eu à cœur de s'impliquer dans un projet de 40 jours de prière pour la France. Alors, je ne sais pas si ce ministère existe encore, mais je crois que c'était un ministère en France qui stimulait toujours avant Pâques de prier en fait pour la France pendant 40 jours. Et avec mon frère, on s'était engagé. Du coup, on s'était dit, nous, on va prier 2 heures par jour pour la France. C'était une expérience qui nous avait stimulé, puis on avait beaucoup prié, on avait beaucoup de choses. Après 15 ans de ministère, je vais me raconter cette histoire, et avec deux enfants, Les trois premiers mois de la naissance, c'est pas là où j'ai prié 2 heures par jour pour la France. Voilà, je dois vous dire. Je me levais le matin, c'est parce que ma femme insistait. Je devais préparer le plus grand pour aller à l'école. Je rentre, je dois aider ma femme, on doit faire un biberon, je dois aller faire les vaccins, je reviens. J'essaie de travailler un peu, je dois récupérer mon fils à l'école, je dois l'amener au basket. Je reviens, j'essaie de passer 2-3 coups de fil. Je dois m'occuper du repas pour le soir. J'arrive, il est 9h, je fais, qu'est-ce qui s'est passé cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et c'est comme ça, Dieu a des périodes de vie où on peut plus se mettre à part et d'autres où, en fait, on dit, Dieu aide-moi. Dieu, merci parce que tu m'as aidé aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait. C'est ce que Dieu nous demande selon les périodes. Mais ces 40 jours, à l'époque, m'ont fortement marqué. Et après ces 40 jours, je me suis dit, je vais passer 3 heures de prière pour la France. Allez, j'y vais, c'est une expérience très forte pour moi. Je vais faire ça. Et c'est une expérience qui m'a marqué. Je rentre dans ma chambre, je commence à prier, et j'arrive pas trop à prier, en fait. J'ouvre ma Bible, et il n'y a rien qui me parle. Je dis, allez, peut-être qu'il faut que je me mette à genoux. Je me mets à genoux, je ferme les yeux plus intensément et j'arrive pas. Et j'ouvre ma Bible et encore une fois une forte conviction qui me dit, JP, ferme ta Bible. Qu'est-ce que tu connais de moi? Qu'est-ce que je connais de toi? Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de ton intelligence. Ok, quoi d'autre? Je réfléchis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au moment où je réfléchis à ça, je sais que mon petit frère ou ma petite sœur, je ne sais plus, avait besoin d'aide. Et c'est comme si Dieu me disait, Dieu, JP, ferme ta Bible maintenant et mets en pratique ce que tu sais de moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'heure pour supplier pour quelque chose d'autre, c'est mets en pratique déjà ce que tu sais. On verra ensuite. Je fermais ma Bible. J'ai aidé mon petit frère ou ma petite sœur. Le jour d'après, j'ai aidé quelqu'un d'autre. Le jour d'après, je m'engageais dans le GBU. Le jour d'après, je suis parti pour 4 mois en mission. Et c'est là où Dieu a ouvert les portes du ministère. Il voulait que je mette en pratique ce que je savais déjà de lui. Et on va aller dans le premier texte que je vais lire ce matin. Ah. Dans ma tête, je voyais ce qui était écrit là. Ah, ok. Ah, ça va être compliqué. Ça se tourne pas, hein. Si, j'arrive à tourner. Alors, si je parle fort, ça va? C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis au micro et qui les met en pratique. Je répète. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Cette personne-là, vous connaissez, c'est la maison sur le roc. On chante ça aux enfants. Le vent souffle là et la pluie tombe. Le vent souffle là et la pluie tombe. Le vent souffle là. Mais ce que Dieu dit, en fait, c'est si vous écoutez mes paroles, que c'est bien, et si vous les mettez en pratique, alors seulement vous serez comme une maison fondée sur le roc. Si vous écoutez mes paroles, plus bas. Mais toute personne qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, cette personne ressemble à un fou. En fait, Dieu nous dit, c'est bien d'aller au culte, c'est bien d'ouvrir la Bible, c'est bien de prier. Mais si vous ne mettez rien en pratique, vous êtes comme un fou. En fait, moi, quand on m'a appris ça à l'école du dimanche, j'ai toujours cru que c'était les non-chrétiens, c'était les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne lisaient pas leur Bible. En fait, Dieu, il ne dit pas ça, il dit, t'ouvres ta Bible, c'est bien, mais si tu ne la mets pas en pratique, t'es comme un fou qui construit ta maison sur le sable. J'ai lutté avec quelque chose pendant 3 ans, pour vous dire. Il y a des gens dans le ministère qui m'ont fait très mal, et j'arrivais pas à pardonner. Je savais que je devais pardonner, et j'arrivais pas. J'avais les connaissances, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des livres. Je savais qu'en tant que chrétien, je devais pardonner, et j'arrivais pas à pardonner. Il m'a fallu 3 ans. 3 ans de... Et c'est là où la prière nous aide. C'est là où la lecture de la Bible nous aide. C'est là où les enseignements le dimanche matin nous aident. C'est là où les livres chrétiens nous aident. J'y arrivais pas. Je fais, Seigneur, t'as vu ce qu'ils m'ont fait, punaise. J'y arrivais pas à parler. Je fais, Seigneur, je pardonne. Je me relevais. Il y avait encore quelque chose dans mon cœur. J'avais dit avec ma bouche, j'avais pas pardonné avec mon cœur. Je fais, Seigneur, j'arrive pas. Je rediscutais, j'essayais de régler des choses. Et la prière, c'est pas la fin en soi. La prière, c'est l'aide à mettre en action ce que Dieu nous demande. Et j'ai prié pour ce pardon jusqu'à un matin où j'ai écrit à cette personne par un email. Et j'ai fait, je te pardonne en fait. Et j'étais libre. J'étais libre. En fait, j'aurais pu faire 15 prédications sur le pardon. J'aurais pu lire 20 livres sur le pardon. Si dans mon cœur, je n'avais pas pardonné, j'aurais été comme un fou qui construit sa maison sur le sable. J'ai beaucoup enseigné la Bible aux enfants, puis j'aime avec les enfants parce que c'est simple avec eux, tout rentre naturellement. Et je me suis rendu compte, punaise, Jésus, quand il prêche, même un enfant de 6 ans, il peut comprendre. En fait, la Bible, elle n'est pas compliquée. C'est pas un... Il ne faut pas avoir un diplôme pour comprendre la Bible. Mais la mise en application, surtout quand on est adulte, des fois c'est compliqué. Des fois, punaise, que je regarde, que j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis dans le ministère, il m'a fallu 3 ans pour pardonner une seule personne. Et punaise, c'était pas, j'ai pas, c'est pas des gens qui ont tué ma famille, c'est pas des gens qui ont fait des choses graves en fait. Quand je regarde, je rigole, c'est pas quelque chose de grave, mais il m'a fallu 3 ans. Oh, la première conclusion de ce texte est très simple. Et je vous le dirai comme le dit un enfant de la Bible. Dieu nous demande l'obéissance. Voilà, c'est simple en fait. Je n'ai pas de diplôme très important. Mais je vous encourage. Et je vous challenge dans votre vie de prière si vous n'arrivez pas à obéir. Et si ça prend du temps, c'est ok des fois que ça prenne du temps. Dieu est patient. Dieu, on sait qu'il est amour. La première caractéristique de l'amour, c'est l'amour est patient. Premier conseil de ce matin, obéis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux prier 3 heures par jour, mais si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce sera ma première conclusion. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis dans les slides. On va lire ma deuxième partie. Ah, ok. Deuxième texte que je voulais avoir en face de moi, que je n'aurai pas en face de moi. On va voir.
Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. J'ai un peu coupé le texte biblique pour aller plus vite, mais vous pouvez récupérer dans la Bible à Matthieu 25, 14-30. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Blablabla. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite. Vous connaissez l'histoire. Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. »
Ok. Un texte qui m'a longtemps travaillé. Ah, et je reprends des nouvelles que je voulais vous dire. Donc, je suis dans une phase de vie du ministère où un de mes rôles, c'est de mobiliser l'Église derrière la mission. Donc, je voyage beaucoup dans les églises, leur parler de ce qu'on fait, les stimuler à s'engager. J'étais aux États-Unis 2 fois l'année dernière pour 2 voyages pour visiter des églises. Et puis, on m'a demandé d'écrire un petit livre. Comme ça, quand je vais dans des églises, les gens repartent avec un livre, donc j'essaye d'écrire un livre. Dans ma vision utopique de la vie, Je m'étais dit, c'est bien, quand Elias pleurera la nuit, que je serai réveillé la nuit, je pourrai écrire la nuit. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. Je pensais finir mon livre bientôt, mais ça prendra plus de temps, c'est OK. Ce n'est pas un livre compliqué, c'est des petites méditations, c'est 30 petites méditations. Donc, je vais vous lire une de ces petites méditations. Comme ça, vous pouvez prier pour moi alors que j'écris. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Et si ça ne vous parle pas du tout, priez que Dieu m'inspire différemment. Voilà. Tu peux mettre la prochaine slide. OK, super. C'est une de mes petites méditations que j'ai imprimées. Je suis content d'avoir en face de moi. Qui parle de ce texte, justement. Je me présente. Je suis né dans une famille française de 8 enfants. Je ne sais pas comment ont fait mes parents, mais ils l'ont fait. Avec des parents qui s'aimaient, merci Seigneur, et qui nous aimaient, merci Seigneur. Je n'ai rien fait pour mériter ma nationalité. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'ai rien fait pour mériter le fait que je sois français, le fait que j'ai des parents qui s'aiment, et le fait d'avoir des parents qui m'ont bien éduqué, voilà, qui m'ont amené à l'église, qui m'ont aidé pour les devoirs à l'école. J'ai rien fait pour ça. Ma femme est née dans une famille rome, en Roumanie, sous le communisme, d'une mère chrétienne et d'un père non chrétien. Et elle a grandi dans un esprit, dans une famille où il y avait des conflits tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et il y a encore ces conflits aujourd'hui, que vous sachiez. Ma femme avait 9 ans quand elle a dû commencer à faire la cuisine pour ses frères et sœurs et s'occuper de toute la famille. Pourquoi ? Juste à cause de nos naissances, certaines portes me sont ouvertes à moi et qui ne sont pas ouvertes à ma femme. Ok ? Je vous ai dit que je vais aux États-Unis régulièrement. Parce que je suis français, un passeport me suffit en fait. J'ai mon passeport, je remplis un formulaire sur Internet et ça, c'est pas compliqué. On a essayé d'amener ma femme aux États-Unis, alors elle doit avoir le passeport. Après, il faut avoir le visa. Pour avoir le visa en Roumanie, c'est compliqué parce que beaucoup de Roumains sont partis aux États-Unis mais ne sont jamais revenus. Donc, les Américains sont très sensibles. Dès qu'il y a des Roumains, il y a trois fois plus de contrôle. Tout est beaucoup plus compliqué. Et ce n'est pas juste, en fait. Je dis, pourquoi c'est ça? Ma femme, elle ne va pas faire un attentat. À cause de mes voyages, je vois des gens aussi très riches. Et je vois des gens qui galèrent juste à acheter le pain pour aujourd'hui. C'est ma vie, c'est ce que je vois tous les jours. Et la deuxième phrase dit « Pourquoi certaines personnes peuvent s'acheter le dernier iPhone en quelques jours de travail, alors que d'autres, et je précise ça, capacité de travail égale, je ne parle pas de gens qui ne veulent pas travailler, je parle de gens qui ont des capacités, qui travaillent de la même manière, doivent travailler plusieurs mois pour l'acheter. Pourquoi certains s'acharnent des années à écrire des musiques sans grand succès, alors que d'autres semblent avoir reçu, en plus bien sûr de toutes les heures de travail, la bonne voix, le bon professeur, la bonne boîte de production ?» Et ma conclusion de tout ça, c'est que la vie, elle n'est pas juste, en fait. Je dis, punaise, la vie, elle n'est pas juste. Seigneur, c'est pas juste. Et ce texte nous confirme ça. Dieu dit, il a donné à quelqu'un 5 sacs d'argent, à l'autre 3 et à l'autre 1. Et Dieu, il dit, oui, la vie, elle n'est pas juste. La vie, elle n'est pas juste. C'est pas juste du tout. Hein? Mais ce que la Bible nous dit aussi, c'est que Dieu est juste. Et c'est ça qui change tout. À celui à qui Dieu va donner 5 talents, il va demander 5 talents en retour. À celui à qui Dieu donne 3 talents, il va demander 3 talents en retour. À celui à qui Dieu donne 1 talent, il ne va pas demander 10 talents en retour. Il demande un seul. Mais il dit, tout le monde peut donner quelque chose. Tout le monde. Tu penses que tu as reçu peu ? Sache que tu as quand même reçu quelque chose et que Dieu te demandera des comptes sur ce qu'il t'a confié. En fait, je vois des familles roms qui galèrent. Ça, c'est mon quotidien. Et je sais que chacune de ces familles a quelque chose à apporter à Dieu. Chacun peut servir dans l'église. Chacun. Et la dîme, j'aime la dîme. Tu reçois 20 euros, c'est que 2 euros que tu le donnes à Dieu. C'est rien. J'aime ce principe, en fait. Tu penses que tu as reçu beaucoup ? Ne sois pas orgueilleux. Et comprends que Dieu te demandera beaucoup également. Ma femme n'a pas été beaucoup à l'école à cause de la situation familiale. et elle n'a jamais compris les maths. Jamais. Quelque chose qu'il a... Elle n'a pas reçu, quoi, on va dire. Mon papa m'a toujours aidé pour les devoirs. J'ai eu un professeur qui m'a beaucoup aidé. Et si je suis fort en maths, encore une fois, c'est de tout ce que j'ai reçu dans mon éducation. Maintenant, quand quelqu'un doit gérer la comptabilité de JPC Roumanie, est-ce que Dieu demande ça à ma femme ou à moi? Je préférais que ma femme soit forte, en fait. Dieu dit, JP, t'as reçu beaucoup? Bah vas-y, travaille. Fais plus. Vas-y, JP. Je racontais hier soir combien de fois je voyage par année à cause du ministère. Et quelqu'un me dit, comment elle fait ta femme à chaque fois que tu pars? Et ma femme, elle n'a peut-être pas 10 dons. Mais elle a un don que j'ai rarement vu chez une femme. C'est qu'elle me libère entièrement pour le ministère. Elle me dit, JP, c'est toi qui as appelé, vas-y. Si tu dois partir 2 semaines, bah je vais gérer les 2 enfants, en fait. Je ne sais pas, c'est un cadeau du ciel, cette femme. Oh. Ma deuxième conclusion, je crois que je suis slide de la conclusion. Vous pouvez lire le verset qui est en bas. La vie n'est pas juste, Dieu nous donne différents dons. Le but, ce n'est pas de comparer nos dons les uns aux autres. Ce n'est pas de dire, punaise, lui, c'est mieux ça, moi, je ne sais pas, c'est pas ça. C'est de regarder ce que Dieu nous a donné et de faire quelque chose avec. Ma troisième pensée pour ce matin, un peu la prochaine slide. Ah, troisième texte. Troisième texte.
Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
C'est que ça est plus simple pour nous. Vous comprenez pourquoi après. Oh, j'avais donc 18 ans, 19 ans, et puis avec des amis, on s'est dit on va faire quelque chose pour les enfants des quartiers qui sont autour. Et donc on a été à Vendest, démarrer ce qui s'appelle aujourd'hui Respérance. Et hier soir, j'étais au quartier, il y avait le mariage de Marie et Josué, et on voyait les enfants qui couraient, on voyait le responsable musulman de la pagode qui nous félicitait et qui nous rappelait les débuts. J'étais avec Polly, qui était avec moi depuis le début. Il nous manquait d'autres qui étaient là au début, mais on se disait, c'est incroyable en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste prié, on s'est dit, on avait à cœur les enfants des quartiers. On s'est dit, allez, on va faire un après-midi. Après un après-midi, on est revenu. Après, on est revenu. On n'avait pas de formation. On a fait un week-end de formation pour les marionnettes, c'est ce qu'on a fait. On n'avait pas de budget. On n'avait pas une équipe très expérimentée. Mais on a mis en pratique. Et 15 ans après, je vois que Dieu a fait grandir en fait. Et c'est la beauté de l'évangile. La beauté de l'évangile, c'est que Dieu ne nous ment pas des grandes choses. C'est des petites choses qu'il ment. Mais ces petites choses, lui, les fait grandir en quelque chose qui est grand. Tu peux mettre la prochaine slide, ouais. Ma femme, notre fils, le premier, le plus grand. Notre vision, Dieu nous a mis quelque chose très à cœur, c'est d'aider, multiplier et inspirer des gens qui veulent être à plein temps dans le ministère. Une des choses pourquoi je dis ça, c'est parce que justement en démarrant quelque chose comme Respérance, on se dit s'il n'y a pas quelqu'un qui a assez d'énergie pour porter, c'est difficile. Et c'est une grande vision, et encore une fois, c'est des petits pas qu'on a mis en pratique. Et je vais vous montrer quelques autres photos, tu peux passer à la prochaine. Il y a 7 ans, on m'a demandé de reprendre la direction de JPC Roumanie. JPC Roumanie, il n'y avait presque rien qui se faisait. Il y avait le fondateur, Myung-Soo, qui était là, et moi. Et j'ai dit, ok, je suis ok de servir pendant 6 mois, à raison de 1 jour par semaine. Petite chose, Dieu nous demandait de petites choses. On n'avait pas de budget, pas d'équipe, un tout petit travail. Et aujourd'hui, C'est plus de 1000 enfants qui vont venir en camp cet été. On va faire 12 camps et semaines d'évangélisation. Et je ne sais pas comment ça a grandi. Je ne sais pas. J'avais un plan, et à bout d'un an, le plan que j'avais s'est écroulé. Je sais que j'étais prêt à collaborer avec quelqu'un, et à bout d'un an, on ne s'est pas entendu, on a dû se séparer. Et je fais, Seigneur, comment tu as fait grandir ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a grandi, en fait? Comment ça se fait que cet été, on aura 12 camps? Et je ne sais pas. Je sais juste que à chaque moment, du moment où il y a des petits pas que j'ai faits, et Dieu a fait grandir. Je vais vous présenter nos différents équipiers. Ouais. Les premiers, Stéphane et Emilia, c'est une histoire que j'aime raconter. Donc, je vais parler de Stéphane, du mari. Il s'est converti assez tard, il avait beaucoup tourné dans beaucoup de choses. Et quand il s'est converti, rapidement, il a entendu une prédication sur les groupes de maison. Et il s'est dit, je vais démarrer un groupe de maison. Il a invité plein de gens, et personne n'est venu. Il s'est dit, la semaine prochaine, je recommence. Il a invité plein de gens, personne n'est venu. À bout de la quatrième semaine, il a eu un ado qui est venu. Aujourd'hui, c'est 100 enfants et ados qui viennent chaque semaine à leur groupe d'évangélisation et de croissance. C'est quelqu'un qui venait de se convertir, qui n'a pas une grande expérience, mais qui a obéi et qui est resté fidèle. Et Dieu a fait grandir en son temps. On est heureux de les avoir parmi nous. Ils travaillent beaucoup parmi les Roms en Roumanie. Deuxième couple qui travaille avec nous. J'aime leur histoire aussi, Sorine et Miela, si c'est bon ça. Okay. 37 ans, à cause de l'économie roumaine, ils habitent encore chez leurs parents, ils ont une fille. C'est des gens qui bossent, c'est pas des gens qui sont fainéants, c'est des gens qui bossent. C'est juste que l'économie fait qu'ils ont dû rester encore chez le parent de Sorine. Ils essayent de construire quelque chose pour eux. Et lui, il a toujours été perturbé que son église n'était pas assez ouverte pour les gens dehors. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que ceux dehors soient attirés par l'évangile. Il a dit, on va faire un festival. Le premier festival qu'il a eu, c'était pour lui un an de salaire de pas de foi. Sans s'assurer que l'église va aider ou des gens vont aider. Il a démarré, 7 ans après, c'est 500 personnes qui étaient au festival l'année dernière, dont la moitié non chrétiens. C'est quelqu'un qui n'a pas 10 dons, il a peut-être un ou deux, la musique et une passion de Jésus, qui a tout mis pour que l'évangile grandisse. Et 250 jeunes non-chrétiens qui viennent écouter l'évangile sur un terrain de foot. Le troisième couple, c'est un couple qu'on est en train d'engager. Dieu voulant, en juillet, ils seront engagés à plein temps avec JPC Roumanie. Et le gars a 40 ans, il s'est converti assez tard aussi à l'armée. Il m'a dit, JP, je veux que ma vie, elle serve Christ, en fait. J'ai une femme, j'ai des enfants, c'est OK, mais ça n'a aucun sens si je n'arrête pas tout pour servir Dieu. Ça n'a aucun sens. Très à cœur, l'évangélisation, il est passionné des jeunes qui ne connaissent pas Dieu. Et en fait, notre rôle, mon rôle, en tout cas ce que Dieu m'a confié, c'est de prendre soin de ses ouvriers, m'assurer qu'ils ont un cadre dans lequel évoluer, s'épanouir et faire grandir. Mais je sais que ce que Dieu me demande, en fait, c'est des petites choses. Répondre à un coup de téléphone. Organiser une réunion. Faire une lettre de nouvelles. Prendre des photos. Stimuler un équipier. Faire un biberon pour ma femme, qui entre-temps me demande qu'elle a besoin d'un biberon pour Elias. C'est des petites choses que Dieu me demande. Et Dieu fait grandir. Mes trois conclusions. Ah, notre équipe de JPC Roumanie, une partie en tout cas avec notre conseil d'administration, ils en font. Première, obéis, très simple à dire, plus compliqué à faire. La deuxième, sois fidèle dans les petites choses. La troisième, regarde comment Dieu fait grandir. La parole est d'argent, le silence est d'or. Je vais laisser 5 minutes de réflexion et je prie que le Saint-Esprit convainque peut-être la petite chose que vous devez mettre en pratique. C'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être une petite chose. En ayant foi que Dieu va faire grandir ça. Alors Saint-Esprit, je prie que tu convainques les cœurs en fait. Quelle est la petite chose que tu demandes aujourd'hui? Voilà. Et Seigneur, je te prie encore pour la force à chacun de pouvoir accomplir cette petite chose. Amen.